tant qu'il y aura des femmes, avec Lydia Ketty. Votre rendez-vous du jeudi sur Aligre FM 93.1. Bonsoir. Bienvenue à l'émission Tant qu'il y aura des femmes sur Aligre FM 93.1. Je vous retrouve comme chaque premier et troisième jeudi du mois. Ce soir, nous recevons une magnifique autrice, Madame Maïssia Bey. Maïssa. Voilà. Bey. Merci, bonsoir. Madame, d'avoir accepté notre invitation.
Et bonsoir, merci de m'avoir invitée aussi.
C'est un réel plaisir, je vous assure. Vous venez de présenter votre ouvrage Asia Bajeba, Femme écrivant, qui est édité, c'était un ouvrage qui est édité aux éditions Chèvrefeuille étoilée. Donc, on reparlera de cette édition Chèvrefeuille étoilée.
Très bien, oui.
Alors, je vais essayer de dire correctement le mot. Vous êtes née à Kassar el-Bakhouri.
C'est un peu plus compliqué que ça. Kassar el-Bukhari, je le dis avec l'accent. Voilà.
Mais oui, il faut,
bon,
pardonnez-moi,
voilà.
En Algérie.
Oui, bien sûr, oui, en Algérie.
Votre père était instituteur et votre mère sans profession.
Oui.
Mais votre mère, contrairement aux femmes algériennes à cette époque, avait le certificat d'études primaires. Et elle aimait beaucoup la lecture.
Exactement. C'était vraiment très rare à cette époque-là.
Oui, j'imagine.
Parce que les filles étaient renvoyées chez elles. Si elles allaient à l'école, elles ne pouvaient pas aller, n'y aller que jusqu'au moment de la puberté. Dès qu'elles devenaient pubères, on les gardait à la maison.
Vous êtes à la maison.
Oui.
Pour éventuellement trouver un mari, éventuellement.
Bah, éventuellement, c'est le but de toute femme, n'est-ce pas?
Mais évidemment, évidemment. Votre père était le chef de famille. C'était un notable. Et il était consulté et écouté.
Tout à fait.
Un homme de poigne,
tout à fait. Et en plus, ce n'était pas l'aîné de la famille, mais du fait qu'il avait fait des études, alors que ses frères n'avaient pas eu accès aux études. Lui, il avait fait l'école normale d'instituteur à Bouzaret. Il faut se replacer dans le contexte. Hein,
Bien sûr. Parce que
dans le contexte des années 30-40, c'était très rare. Et il avait réussi. Je n'ai jamais pu lui poser la question, puisque je l'ai perdu, j'étais très jeune. Mais je n'ai pas compris pourquoi lui seul, parmi tous ses frères, il en avait plusieurs, il avait des frères et des sœurs, est allé à l'école française et a continué, a fait ses études, est devenu un lettré.
Un lettré, oui. Il écrivait même des poèmes qu'il traduisait en arabe et en français.
Oui, exactement, oui. Oui.
Vos grands-parents avaient des rangs sociaux différents, c'est ça?
Différents, très différents, parce que mon grand-père maternel était magistrat. Il était dans la magistrature, il a fait des études très très poussées de droit, aussi bien de droit en arabe, de droit comme on appelait à l'époque de droit musulman, puisqu'il y avait deux sortes de... et de droit français également. Il était parfaitement bilingue et il exerçait la profession de cadi. Alors le cadi, c'est l'équivalent d'un notaire et en même temps d'un juge. C'est les deux.
C'est
et il réglait les affaires de droit concernant les, entre guillemets, les indigènes. Vous savez que nous, les Algériens, pendant l'époque coloniale, était appelé indigène.
Indigène, absolument.
Voilà, donc il s'occupait des affaires de justice indigène.
Et vous avez en fait eu une enfance en mode moderne, pratiquement, avec des parents et des grands-parents comme cela.
Oui, enfin, nous avons eu une enfance, mes frères et moi, une enfance très différente par exemple, de mes parentes très proches, de mes cousines. Parce que nous vivions d'abord dans un logement de fonction à l'intérieur de l'école. L'intérieur de l'école et l'école évidemment française.
Bien sûr.
Donc nous vivions là. Ma mère parlait français, nous a appris le français, avait un mode de vie qui était très très différent de celui de ses belles-sœurs, les sœurs de mon père, qui n'étaient jamais allées à l'école, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu une certaine différence sur le plan familial.
Sachant que vous suivez quand même les traditions, mais vous avez échappé donc à la situation sociale des enfants de cousines, des enfants de l'époque, en fait.
Oui, mais seulement, ça n'a pas duré longtemps, parce que mon père est mort lorsque j'avais 6 ans, j'avais pas tout à fait 7 ans, et qu'il nous a fallu quitter le logement de fonction où nous résidions pour aller vivre chez mon grand-père, mais mon grand-père maternel cette fois.
Ouais,
et mon grand-père maternel dont je vous parlais, dont je vous disais qu'il était cadis, et nous sommes exilés parce que nous ne pouvions plus rester à Ksar el-Boukhari. Donc j'ai vécu quelques années dans un petit village magnifique de bord de mer qui s'appelle Ténès. Et c'est de là vient mon amour infini pour la mer.
Oui, d'ailleurs, on parlera d'un livre que vous allez...
Oui,
vous
effectivement.
Avez, votre premier livre, d'ailleurs.
Tout à fait.
Moi, j'ai bien aimé ce que disait votre père. D'abord, il voulait absolument que vous fassiez des études. Ça, c'était important. C'est rare parce qu'un homme, à cette époque-là, qui veut absolument que sa fille fasse des études,
je crois
qu'il faut le remercier. Là où il est aujourd'hui, il faut le remercier. Quoi. C'est extraordinaire.
Et ma mère, qui est restée veuve donc très jeune,
oui.
et qui a dû affronter toutes sortes de difficultés pour tenir sa parole.
Pour tenir,
la parole qu'elle avait donnée à mon père. Parce que mon père, lorsqu'il s'est engagé comme militant FLN, il savait très bien les risques qu'il encourait. Et il avait dit à ma mère nous le racontait tout le temps, il lui avait dit, s'il m'arrive quelque chose, je ne te demande rien d'autre que de laisser tes enfants, nos enfants faire des études. N'écoute pas les autres, nos filles et nos garçons.
Ouais, c'est très important.
Ouais.
D'ailleurs, il avait une phrase que j'ai adorée. Il disait qu'il est impossible de coloniser un homme instruit.
Oui.
Quand il dit homme, c'est homme et femme, bien entendu.
Oui.
Mais j'ai trouvé cette phrase tellement juste.
Oui.
Bon. D'ailleurs, il s'est battu, votre père, parce qu'il est décédé sous la torture de l'armée française pendant la guerre d'Algérie.
Oui, après la grève, la fameuse grève de 1957, le FLN, le Front de Libération Nationale, pour ceux qui ne connaissent pas les sigles, qui faisait la guerre aux colons français, avait demandé en signe d'adhésion aux idées et au combat du FLN, avait demandé à tout le monde de faire une grève de 7 jours. Mmh. Et ça s'est passé au mois de février 57. Donc les magasins ont fermé, bien sûr, les Algériens, enfin tous ceux qui devaient, qui voulaient montrer leur adhésion au combat du FLN,
fallait choisir.
Voilà. Mmh. Et ça donnait, c'était pour montrer que la population adhérait aux idées du FLN, parce qu'on appelait ça. Vous savez comment on les appelait, les combattants du FLN ? On les appelait les rebelles, les terroristes. Vous savez, Et mon père avait donc décidé de faire grève. C'était le seul instituteur algérien dans l'école, c'est le seul qui a fait grève. Et c'est à la suite de cette grève qu'il s'est fait remarquer. Bon, il était, c'était quand même le chef de réseau de toute la région. Il avait, il avait déjà combattu.
Oui.
Il était déjà soupçonné pour ses pratiques, on va dire, anticoloniales et ses idées, surtout anticoloniales. Et ils sont venus dans la nuit du 9 février 1957. Ils sont venus chez nous, à la maison. Je me souviens, j'étais toute jeune, mais je me souviens très bien de cette nuit-là. Et ils ont tout détruit, tout cassé, les militaires. Ouais. Et ils l'ont emmené. Et au bout de 48 heures, il y a un responsable militaire qui est venu voir ma mère en lui disant votre mari a été tué alors qu'il essayait de s'enfuir. Et en fait, il était mort après avoir été torturé pendant 48 heures. C'était de tradition, c'était comme
ça. C'est une période épouvantable.
Tous ceux qui étaient tués, qui mouraient sous la torture, avaient essayé de s'enfuir. On appelait ça la corvée de bois, ça s'appelait.
Donc évidemment, votre situation a changé, comme vous disiez, après le décès de votre père. Mais vous avez quand même continué vos études.
Non seulement continué mes études, mais en plus j'ai eu la chance de pouvoir fréquenter un lycée qui était très peu accessible aux enfants
des indigènes,
aux petits arabes. Voilà,
c'est un mot horrible.
Aux petites arabes. Je suis rentrée dans un lycée qui s'appelait lycée Fromentin, avec une bourse d'internat. Bien sûr, ça s'était fait sur le vu de mes résultats scolaires.
De mes résultats scolaires, absolument.
J'avais très bien travaillé. Donc, je suis rentrée dans ce lycée, j'ai obtenu une bourse d'études et j'y ai fait toutes mes études. Ce lycée Fromentin s'est appelé lycée Descartes après. Et c'est là-bas que je suis restée en interne jusqu'en 67.
Ça, c'était en Algérie, donc. C'était
Alger. Oui.
Mais d'ailleurs, vous saviez écrire et lire déjà toute petite, parce que votre père...
Oui, mon père m'avait appris.
Vous avez appris, c'est extraordinaire. Donc on est dans les années 60 et c'est encore la colonisation. Donc vous êtes dans un lycée où il y a des filles de colons et vous avez d'excellentes notes. Comment vous avez vécu cette période ?
Je ne sais pas comment on peut, quand on est enfant, comment on peut comprendre, mais j'ai très très vite et tout de suite compris la différence qu'il y avait entre moi et les autres. C'était toutes des filles de colons très aisées, parce que c'était le meilleur lycée de la ville. Il y avait deux lycées, le lycée Bugeaud pour les garçons et le lycée Fromentin pour les filles. C'était les deux meilleurs où on recevait des enfants de toute l'Algérie, mais les enfants des colons.
Bien sûr.
Et donc, c'était évident pour moi, je n'étais pas. Il y avait quelque chose qui me séparait. Alors qu'on était en classe ensemble, qu'on avait les mêmes centres d'intérêt, on va dire. Mais très, très vite, j'ai compris qu'il y avait une différence entre... Une différence de statut, une différence de... Et certains nous le faisaient sentir. Sauf que j'ai rencontré là-bas des professeurs extraordinaires. Ouais. Et par exemple, la proviseure du lycée, enfin proviseure directrice à l'époque, on disait, avait été extraordinaire avec nous, les Arabes, comme on disait à l'époque. Elle nous avait protégés pendant la période de l'OS, c'est-à-dire elle nous avait sauvés, elle nous avait emmenés dans son appartement pour qu'on ne vienne pas nous chercher. Enfin, vraiment, vous voyez, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que dans une guerre ou dans un affrontement, toutes les choses sont... Il y a toujours du bon d'un côté et du mauvais de l'autre.
Évidemment, ce sont les humains. Donc,
exactement. Oui.
Donc le 11 février 1961, c'est la création de l'organisation de l'armée secrète, dite donc OAS. Cette situation de guerre civile et de terrorisme avait-elle une incidence sur votre scolarité? Vous venez de dire que oui.
Oui.
Mais est-ce que le fait d'être dans un pays de... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît le terrorisme et la guerre, mais là, on est quand même dans une guerre civile. Donc, est-ce que... Comment ça se passe?
Très difficile.
J'imagine.
Très difficile parce que, bon, j'étais interne et puis petit à petit, les enfants de pied noir, comme on dit, ont commencé à déserter parce qu'ils partaient déjà en France. Il y en a beaucoup qui se sont repliés vers la métropole. Je vous emploie les termes de l'époque. Hein.
Oui, évidemment.
Et donc, le lycée a commencé à se vider. Et ma mère ne voulait pas que j'arrête d'étudier. C'était son obsession. Et elle venait me chercher le samedi pour me ramener au lycée le lundi. Elle a risqué sa vie pour moi parce que quand on voyait une femme musulmane, ma mère n'était pas voilée, mais elle portait un foulard comme ça sur la tête. Mais elle n'était pas voilée, mais elle a risqué sa vie pour que je puisse continuer à aller au lycée. Et il a fallu arrêter à partir début du mois de mai, fin avril. C'était plus possible parce que les attentats, c'était tous les jours. Les rues étaient... Moi, j'ai vu des corps dans la rue, on tuait des hommes, des femmes. Les femmes de ménage qui allaient faire le ménage dans les quartiers européens étaient tuées directement. L'OAS, ça fait des ravages. Et j'ai coutume de dire, et beaucoup, je ne suis pas la seule à le dire, être convaincue, s'il n'y avait pas eu l'OAS, la guerre d'Algérie se serait terminée autrement. Il n'y aurait pas toute cette haine des gens entre eux.
Ça, ils ne voulaient pas s'en aller, de toute façon, les Français.
Ils savaient que c'était inéluctable. Les accords étaient signés, tout était inéluctable. Ils ont essayé de... Vous savez, la politique de la terre brûlée,
c'est bien sûr.
De tout détruire derrière eux. Ils ont tué des gens pour rien, moi. On a vu des jeunes en voiture, très jeunes, avec des pistolets, en train de canarder tout ce qui ressemblait
tout
à un arabe.
Tout était permis à ce moment-là. C'était permis de tuer,
Et ils n'ont jamais été inquiétés. Mmh. Et je pense que s'il y en a encore qui sont vivants aujourd'hui, ils doivent encore vivre avec ça sur la conscience.
Et s'ils ont une conscience, on va leur demander.
Oui, effectivement.
Donc, après 132 années de colonisation française, le 5 juillet 1962 marque le début de l'indépendance de l'Algérie. Enfin, cette période d'indépendance a-t-elle été pour vous euphorique, libératrice, que ça a été
Ah oui, c'était inoubliable.
Enfin.
Le 5 juillet, ma mère qui avait très très peur pour ses enfants, qui était toujours terrorisée à l'idée de qu'il puisse nous arriver quelque chose, nous avait complètement lâché la bride. Et ça a été trois jours de liesse intense et de bonheur incroyable. C'est des jours qu'on a vécu. Je crois que il faut les avoir vécus pour comprendre ce que ça pouvait représenter.
La liberté, oui, enfin.
Oui, ce sentiment de liberté, oui.
Donc après le bac, vous avez toujours continué les études. Vous avez fait des études universitaires, des études de lettres.
littérature française.
À Alger, toujours. Et vous êtes titulaire donc d'une maîtrise de lettres françaises.
Exactement.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et puis, vous vous intéressez à la philosophie et à la politique, bien entendu.
Mais on a vécu comme ça, on a vécu là-dedans. Vous savez, déjà, la mort de mon père a été un déclencheur parce qu'il fallait bien essayer de trouver des réponses à des questions.
Bien sûr.
Et quand on est petit, quand on vous parle de torture, quand on vous parle de haine, quand on vous parle de guerre, on essaie de trouver des réponses.
Pourquoi ?
Et les adultes n'en donnent pas beaucoup.
Non.
Les adultes,
c'est trop douloureux pour eux.
Voilà, c'est très dur pour eux et tout. Donc il faut aller chercher les réponses.
Bien sûr.
Il faut aller les chercher. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que moi, je me suis toute petite, plongée dans la lecture de livres qui, quelquefois, étaient très difficiles pour moi, mais que j'ai essayé de comprendre. Et puis, je m'intéressais à tout ce qui pouvait se dire et se faire autour de l'Algérie. J'ai eu une chance incroyable d'avoir un oncle, le mari de ma tante maternelle, qui était très, très engagé, lui. Très engagé. Il militait au Parti communiste algérien. Donc, il était très politisé. Et moi, je me souviens de ces repas de famille qu'on faisait où il analysait la situation. Et moi, j'étais, j'écoutais, je buvais ses paroles. Et il y avait, il était profondément et très, très de gauche, très convaincu par son combat de
qu'on pouvait changer le monde. Et
Et c'est ça qui a fait que je me suis très vite intéressée à la politique.
C'est vrai que cette période d'indépendance, c'est vraiment, c'est propice à se questionner sur le monde, sur la vie, et qu'est-ce qu'on le fait. Mais je pense que les adultes, peut-être, n'osent pas dire, parce qu'ils se sentent coupables, quelque part, des résultats de cette vie politique, ce que les enfants, quand même,
oui,
n'ont
mais
pas
en même temps, il y a ce, je pense que, pardon, je vous interromps, mais je pense que les adultes ne prennent pas suffisamment conscience que les enfants ont besoin de réponses.
Absolument, de réponses.
De réponses, même si ce sont des réponses un petit peu difficiles, qu'il faut savoir moduler les réponses et les mettre à la portée des enfants. Parce que moi, je me souviens que toute petite, je demandais à ma mère et à mon père, je leur disais, mais pourquoi il y a cette différence entre Geneviève et moi ?
Oui.
Geneviève à mon âge, elle est comme moi. Pourquoi elle est traitée différemment ? Pourquoi on parle de Geneviève ? Et je ne comprenais pas. D'ailleurs, j'ai écrit un texte qui s'appelle « C'est quoi un arabe ?»
Oui.
Voilà, parce que je me posais la question, c'est quoi un arabe ? Pourquoi un arabe serait-il différent des autres ? Quoi, physiquement, il n'y avait pas trop de différence. Moi, j'avais des cousines rousses et blondes, etc. Donc, pour moi, physiquement, je ne voyais pas de différence. Ouais. Donc, il y a toujours ce questionnement qui est là. Et il y a des parents qui disent, tu poses trop de questions.
Oui, les réponses.
Tu n'as pas besoin de comprendre.
Ils ne sont pas satisfaisants.
Et il y en a d'autres.
Mais la question se pose encore aujourd'hui.
Oui, oui, mais je parle de façon générale.
Oui, oui, oui.
Bien sûr. Oui,
Et puis, donc, vous êtes aussi professeur de français dans un lycée, à Sidi Bel Abbès, dans l'ouest algérien. Donc, vous avez été professeur pendant combien d'années ?
Oh, 30 et quelques années, 30 ans à peu près.
Oui, 30 ans. Mm-hmm. Et puis, en deuxième année universitaire, vous rencontrez l'amour.
Vous savez tout sur moi.
Oui, j'ai tout.
Mais oui, je me suis mariée très jeune, très très jeune. J'avais à peine 20 ans. Enfin, j'ai rencontré celui qui allait être mon mari pour la vie à 18 ans et je me suis mariée à 20 ans.
Et c'est vrai que c'était compliqué, j'imagine, pour vous, parce qu'orpheline de père, votre comportement, celui de votre mère et de votre sœur, devait être irréprochable. Donc, l'amour, quand on a 18 ans...
Donc, quand on vit dans un pays comme le nôtre, surtout, où le mot amour lui-même est déjà presque tabou, presque un
tabou,
mot qu'il ne faut pas trop prononcer en famille, devant les gens, etc. Oui, oui, ça a été des moments... un peu... Mais c'est ça, là. C'était les problèmes ou les aléas de la jeunesse. Mais j'ai vécu pleinement cette période.
C'était merveilleux.
Et ce qui a été merveilleux, c'est qu'à cette époque-là, il faut le dire, l'université algérienne était bouillonnée d'intelligence, de gens vraiment qui cherchaient à comprendre, à savoir. Alors, nous avons eu des Français, des professeurs français, des grosses pointures, comme on dit. Hein, vous avez qui venaient donner des cours, aider les Algériens juste après, comme s'ils voulaient quelque part rattraper ce que la France avait pu faire à l'Algérie. Nous avions des, 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 des personnes très, très compétentes. Et c'est ça qui a fait que notre formation, enfin, la formation de ma génération, a été une formation un petit peu exceptionnelle. Hein.
Évidemment.
Nous avions des professeurs comme Louis Althusser, le Balibar, enfin, des grands noms.
Des grands noms, oui.
Oui, les plus grands noms.
Et puis,
noms
un besoin venaient... énorme, surtout oui, aussi, oui. De comprendre, de connaître.
Exactement.
Et de libérer, ça devait être vraiment
c'est
incroyable.
C'est ce qu'ils nous disaient, c'est que ces professeurs nous disaient. Ils nous disaient, écoutez, il y a une soif d'apprendre... Oui. qu'on ne retrouve pas chez nos étudiants français.
Évidemment.
Et c'est incroyable comme vous êtes avide, avide
alerte,
d'apprendre, avide de connaissances. Et ça, c'était quelque chose qu'ils ne vivaient pas lorsqu'ils enseignaient en France.
Il faut savoir que la programmation musicale est de votre choix.
Donc,
alors évidemment, je vais écorcher le nom de la musique dont je ne vais pas donner. Fadela Dira.
Alors, je vais vous le dire. Fadela Diria.
Diria. Alors, racontez-moi qui est cette femme. Parce qu'apparemment, elle a quelques... Comment dire, ça fait, il y a quelques années déjà.
Oui, elle fait partie de cette... Et ça tombe bien parce qu'elle fait partie de ces souvenirs que j'ai des années 60.
Des années 60.
Alors, elle avait c'était un orchestre féminin qui se produisait pour les mariages.
Ah oui.
Dans les mariages, mais avec les femmes, surtout.
Oui, oui, oui.
Il n'y avait pas de mélange.
Oui, du côté femme.
Voilà,
oui,
du
oui.
côté femme. Et elle-même, c'est une femme qui avait combattu, qui avait été internée dans un camp. Enfin, c'était quelqu'un de formidable. Et puis, elle avait une voix fort extraordinaire.
Oui, j'ai entendu.
Et c'est des souvenirs qui me reviennent de ces femmes qui se mettaient à danser, lorsqu'elle était là, ouais. qui se mettaient à danser avec des foulards, ouais. des tenues chatoyantes. Vous savez ouais. ce qu'on appelait le sarouel avec oui. le caracol. Et c'est toute une, comment dire, tout un mode de vie, tout un souvenir. Pour moi, c'est beaucoup de nostalgie
et
de
bien
ce
écoutez,
temps-là.
Écoutez, nous sommes dans la nostalgie et merci de nous faire partager.
Merci.
Merci à vous. C'est bien. C'était votre choix. Et cette femme, vous me disiez, on était en quelle année? Elle était en quelle année?
Oh, elle était dans les années 60.
Dans les années 60
et 70. Ben oui.
Alors, on a parlé de mariage à 20 ans. Donc, vous rencontrez votre mari. Et puis, c'est le mariage. Et puis, vous avez très vite des enfants.
Effectivement.
Et vous êtes devenue une épouse, une mère de famille.
Donc, modèle.
Très
Non, je plaisante.
Oui, non, non, modèle, absolument.
Mais oui, bien sûr.
Oui, absolument.
Oui, j'ai tout fait comme il faut.
Ben oui, exactement.
Comme le mariage, les enfants. J'ai eu d'abord deux garçons, ensuite deux filles. Voilà, je m'en suis très, très bien occupée, beaucoup. Et j'ai pu mener de front ma carrière aussi de professeur.
Vous étiez toujours professeur à ce moment-là.
Oui, oui, ma carrière de prof, ma vie de femme, ma vie de mère. Voilà, comme font toutes les femmes. Hein,
oui, comme forcément. Font toutes les femmes, beaucoup de femmes.
Les femmes qui travaillent, de plus en plus. Etc. Oui, oui. Donc, ça a duré très, très longtemps. Oui. Jusqu'à ce que je commence à penser un petit peu à moi.
C'est ça. En fait, vous aviez... Bon, évidemment, comme tous les couples, ce sont des projets familiaux, l'éducation des enfants, la maison. Mais vous aviez la volonté tout de même de ne pas vous enfermer dans votre rôle d'épouse et de mère.
Oui, ce qui faisait la différence, on va dire, parce qu'il faut, le dire honnêtement, ce qui faisait la différence, c'était mon amour dévorant pour la lecture. Oui. Je n'ai jamais, jamais cessé de lire un seul instant. Il ne se passait pas de jour sans que je lise au moins quelques pages. Et quand je prenais même sur mes nuits de sommeil, hein, sur mes heures de sommeil, pour pouvoir lire. La lecture a été, ça a été une passion, mais qui faisait tellement partie de ma vie. C'est comme quelqu'un qui dit « j'aime bien manger, j'aime bien boire ». Et pour moi, c'était une nécessité,
c'est la lecture. Oui,
une nécessité vitale. La lecture était pour moi une...
Je comprends très bien. Et vous continuez à enseigner, parce que c'est quand même un engagement aussi, l'enseignement.
Oui, tout à fait.
C'était normal de transmettre, en fait, c'était ça.
Vous avez fait, j'ai même adoré mon métier d'enseignante.
Mais j'imagine, c'est comme votre père, c'est extraordinaire. Voilà. Vous avez continué le même, même schéma que votre père, la même histoire. Non, vous avez fait un choix de vie, mais pour cela, vous avez quand même mis en parenthèse vos aspirations et vos engagements, justement. Je parle de politique, là. C'est-à-dire que...
Pour mes enfants, oui.
C'est
pour
ça.
Mes enfants, pour ma vie, pour ma vie familiale, je me suis laissée, vivre comme vivent toutes les femmes de mon pays. Et pour moi, c'était quelque chose d'essentiel. Il fallait que mes enfants puissent avoir une mère, quoi.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Que facilement ce que vos parents ont fait pour vous, en fait.
Exactement, oui.
Vous parlez de lecture. Bon, pour moi, je disais que c'était un exutoire pour vous. Vous n'avez jamais cessé d'être à l'écoute du monde, en fait. Même en étant en Algérie, vous êtes complètement...
On avait la chance dans ces années-là, parce que ça n'est plus le cas aujourd'hui, de recevoir toutes les revues, les journaux qui étaient publiés en France. Mais quand je dis toutes les revues, vraiment, c'était toutes les revues. Vous avez, par exemple, les journaux, bon, je peux les citer, Le Monde, comment on appelle ça, Libération, enfin, tous les journaux, le courrier diplomatique, enfin, tout ça, plus les journaux pour femmes. Hein,
ou
les journaux, vous aviez aussi la revue Lire, par exemple, où vous avez Elle, Marie-Claire. À l'époque, il y avait toutes sortes de journaux.
Il y avait tout ça chez vous.
Et ça faisait le lien pour moi. Ouais. J'ai jamais été très télévision, comme on dit. À l'époque, tout le monde regardait la télé, on connaissait. Ouais. Mais moi, mon oiseau préféré était
papiers,
la lecture. Ouais. Et je n'aurais changé pour rien au monde. Voilà. Donc, il y avait ça et il y avait le cinéma aussi. Le cinéma, j'ai beaucoup, beaucoup aimé aller regarder des films. Je me tenais au courant de toutes les sorties, etc. Et dès qu'il y avait un film qui passait dans la région où j'habitais, ou alors à Alger, je me précipitais pour aller voir le film. Ouais.
Et quand vous veniez en France, votre budget, c'était les livres, encore une fois.
Sans arrêt. Je me souviens d'une réflexion d'un douanier algérien qui avait contrôlé ma valise. Il avait ouvert... Puis il m'a dit,
faites un trafic.
Et il m'a dit, mais c'est quoi ça? Je lui ai dit, c'est des livres. Ah, il m'a dit, c'est tout ce que tu ramènes de France. Il était un peu déçu parce que ce n'était pas du tout ce qu'il avait l'habitude de voir. Oui.
Mais en fait, il y a quand même une dichotomie entre ce que vous étiez et ce que vous paraissiez. Est-ce que vous étiez quand même une femme, enfin vous êtes une femme révoltée, une femme en colère? parce que vous avez gardé cette colère en vous. Quand on a vécu ce que vous avez vécu en Algérie, on ne peut qu'être en colère quelque part.
Effectivement, oui.
Et les femmes que vous côtoyez à l'époque ne partageaient pas l'intérêt que vous. Donc, il y a une forme d'isolement dans cette colère.
Je le ressentais de cette façon-là, effectivement.
Oui, c'est ça.
Mais en même temps, très sociable. Hein.
Oui, bien entendu. Bien entendu, ça empêche pas.
Je ne faisais pas. Comment dire, je faisais pas mystère de ce que je voulais être et voulais faire, mais en même temps je m'adaptais totalement à l'environnement social qui était le mien, et c'était qui était à des années-lumière de ce que j'aurais voulu pouvoir être et faire.
Bien sûr,
mais en même temps c'était la rançon à payer pour pouvoir continuer à vivre, sinon on se met à dos. Tout le monde à l'époque, bon,
c'était pas parce que j'avais
peur d'être exclue et tout, non, parce que ça faisait partie d'un choix délibéré que j'avais fait. Je savais que au fond de moi-même, par exemple, j'étais très féministe, je lisais toutes les féministes étrangères, pas seulement françaises, mais de toutes les nationalités, mouvement féministe qui avait commencé dans les années 68 et tout ça. J'étais profondément féministe, mais en même temps je m'adaptais aux situations dans lesquelles j'évoluais sans vouloir faire quelque chose qui montrait mes révoltes et non, pour moi c'était une façon de vivre ma vie. Et puis j'ai continué pendant très longtemps, jusqu'au jour où j'ai commencé à vouloir m'exprimer. Absolument. Et exprimer cette révolte.
À l'époque, certaines femmes étaient marginalisées par la société post-coloniale, parce que bien qu'elles soient battues au même titre que les hommes, elles n'avaient pas encore eu les droits qu'elles méritaient.
Elles n'ont toujours pas les droits qu'elles méritaient.
Oui.
Mais oui, évidemment, vous savez que les femmes se sont battues, comme vous dites. Quand vous dites se sont battues, c'est-à-dire qu'elles sont allées au maquis avec les maquisards.
Oui, c'est ça. Elles ont tenu des armes et se sont sacrifiées.
Beaucoup ont perdu la vie. Donc, les femmes ont combattu. On a eu besoin d'elles. Et puis, on a eu besoin d'elles en tant qu'infirmières, en tant que, agents de liaison. Elles ont tout fait pendant la guerre. Mais une fois que la guerre a été terminée, après l'indépendance, on les a oubliés.
Retourner à la cuisine, en fait.
Je ne dirais pas ça comme tout le monde le dit, mais on leur a dit merci beaucoup, mais voilà, vous êtes des femmes, donc maintenant, mariez-vous, ayez des enfants, il faut penser au futur de l'Algérie. Et voilà, et des femmes sont rentrées dans le rang, pour la plupart.
Et il y a une partie de la population féminine qui sont des veuves de martyrs, les Chouada.
Ok.
Elles sont constituées de 99% d'analphabètes sans ressources ni famille. Après la guerre, effectivement, il y a des femmes, les hommes étaient ou décédés, ou, donc les femmes étaient seules.
Il y a beaucoup de femmes qui ont... Moi, je sais que ma mère, nous avons vécu très, très, très modestement avec la pension que ma mère recevait en tant que femme de martyr, de chahide. Ça a été très dur pour élever 5 enfants. Nous étions 5 dans la fratrie. Mais elle avait cette chance-là d'avoir pu faire des études, de ne pas savoir lire et écrire. Donc, elle nous a transmis certaines valeurs que d'autres n'ont pas eu la possibilité de transmettre à leurs enfants. Mais en même temps, ces femmes sont restées debout. Elles ont tenu le coup quand même. Et elles ont donné des générations magnifiques d'hommes et de femmes.
D'hommes et de femmes, bien entendu. Mais quel a été le point de départ qui vous a obligé de mettre par écrit votre révolte et votre colère ? Il y a eu un moment.
Oui, enfin, c'était déjà là.
Oui.
C'était déjà là, c'était latent.
Vous écriviez de toute façon
déjà.
Oui,
non, c'était latent. Mais je n'imaginais pas être écrivain, contrairement à beaucoup d'amis que j'ai, d'amis écrivains ou d'écrivains que j'écoute ou dont je lis les biographies. Je n'ai jamais imaginé pouvoir un jour être écrivain. Jamais. Alors, je me pose maintenant, enfin, on me pose souvent la question, je me la pose pourquoi. La réponse, c'est que je plaçais la littérature et les écrivains très très haut. Et je n'imaginais pas pouvoir, égaler, mais pouvoir, pénétrer dans le territoire de l'écriture. Ouais. Parce que pour moi, c'était un territoire sacré. C'était pour moi quelque chose, surtout que, j'ai découvert surtout la poésie. Et puis, quand je faisais mes études de lettres françaises, je lisais énormément. Je lisais les grands classiques, je lisais... Donc, c'était un territoire quasi outre, sacré. Enfin,
inaccessible,
en fait. Voilà, tout à fait inaccessible pour moi. Et je n'imaginais pas. Contrairement à, j'ai des collègues, j'ai des amis qui me disent, moi, à l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à écrire. À 11 ans, j'écris mon premier roman. Je savais que j'allais devenir écrivain. Je rencontrais des gens qui m'ont dit, à 14 ans, j'avais déjà écrit 2 romans. Je vous le dis. Hein. Et moi, rien. Je n'écrivais rien. À part, de temps en temps, je tenais un cahier journal. Mais bon, c'était pour moi-même, hein, pour revenir sur, mes sentiments et mes réactions. Et puis voilà, donc l'écriture pour moi c'était un territoire sacré, je ne pouvais pas m'y aventurer. Et il a fallu attendre les années 90, lorsque l'Algérie a basculé dans l'horreur, ces années rouges comme on les appelle, cette décennie où on a perdu complètement le sens de la vie à cause du terrorisme, toutes les valeurs ont explosé. Avec, ça a été une période extrêmement difficile, il faut l'avoir vécu pour comprendre ce que c'est, où on tuait chaque jour des dizaines et des dizaines de personnes pour ce qu'elles étaient, pas parce qu'elles avaient fait quelque chose, hein. C'est pour ce qu'elles étaient. Et ça a été l'étincelle, si vous voulez. Ça a déclenché
ça suffisait.
Je me suis mise à écrire sans penser être un jour publiée. Mais ça a été un réflexe de survie.
Oui, complètement.
Voilà, un réflexe de survie.
Et donc, il y a aussi... donc, vous avez commencé à écrire un peu en cachette, malgré tout.
Vous avez même pas dit... complètement en cachette.
Vous n'avez même pas dit à votre mari que vous écriviez.
Non, j'ai dit à personne.
Donc, c'est ce que vous disiez, à cause de vos lectures. Justement, à cause de Madame Assia Bedjebar aussi, qui était votre l'autrice la plus extraordinaire pour vous, enfin l'une des...
Oui, donc, l'une de celles qui m'a... D'ailleurs, je l'ai écrit dans les dédicaces que je lui avais faites, parce que comme mon premier roman, je lui ai quand même envoyé, et je lui ai écrit « Vous m'avez ouvert les chemins de l'écriture ».
Oui, c'est beau.
Oui, et pour moi, Serge Barre était vraiment quelqu'un de très précieux, d'exceptionnel pour moi, oui.
Et en fait, vous avez dit, vous avez changé d'avis en disant je vais écrire une histoire, j'ai envie d'écrire quelque chose qui ressemble à une histoire avec un début et une fin.
Oui. Oui, oui, c'était autre chose que les fragments que je pouvais écrire. Et c'était, pour moi, non, il y a eu un problème de conscience très, très fort. Parce que quand on ouvrait les journaux le matin, quand on ouvrait les yeux, on allumait la radio et on entendait les noms, défiler les noms de ceux qui avaient été exécutés la veille. Et que parmi ces noms, on avait des amis, on avait des connaissances. Et c'était tous les jours comme ça. Quand on ouvrait la porte le matin... pour aller travailler, parce que j'ai jamais arrêté. J'ai jamais cessé de travailler. On ouvrait la porte le matin en se disant « Ils sont peut-être là en face, ils m'attendent. Peut-être que je ne reviendrai pas.
Oui, peut-être.
Peut-être que je ne reviendrai pas. » C'était à ce niveau-là que ça se jouait. Donc, se dire « Je vais rester combien de temps ?» le témoin impuissant, silencieux, de tout ce qui est en train de se passer. Je n'avais pas les moyens... même physique, de me révolter publiquement.
Oui, publiquement.
Voilà. Donc, ça a été pour moi un moyen de mettre
Vous aviez les moyens intellectuels pour le faire. Donc,
de mettre à plat toutes mes révoltes.
Bien sûr.
Et le thème que j'ai choisi était un thème vraiment qui était en plein dans le sujet.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire dans cette époque-là que nous vivions. Je n'ai pas esquivé en écrivant une histoire
d'amour. D'amour, à l'eau de rose.
Voilà,
oui, évidemment. Évidemment. Donc, vous choisissez un pseudonyme.
Oui, c'est pas moi qui l'ai choisi. En fait.
C'est votre mère, effectivement.
C'est, maman. Oui, c'est ma mère qui m'a interdit d'écrire et de publier parce qu'elle avait trop peur pour moi. Quand je lui ai dit « Maman, tu sais que j'ai écrit un livre et qu'il a été accepté par une maison d'édition », elle m'a dit « Pas question. Jamais. Tu es folle. Ils sont en train de tuer des écrivains, des dramaturges, des journalistes et tout. Et toi, si tu te mets maintenant à écrire, tu vas mettre en danger ta famille. »
Bien sûr.
C'était vraiment... Voilà. Et je lui ai dit, bon, je pense que je vais quand même éditer, mais ça sera édité sous un autre nom. Et c'est elle qui m'a choisi.
Qui a choisi, en oui. relation avec vos grands-parents.
Enfin, c'est ça, l'arrière-grand-mère maternelle, etc.
On va écouter un peu de musique pour nous détendre. Mais c'est Barbara donc, que vous avez choisie.
Ah oui, Barbara, ça fait pas, c'est une de mes, on va dire, idoles. Si oui, on peut emploie encore ce mot. Je ne sais pas, ça ne dit oui. plus, mais pour moi...
Non, voilà, c'est vrai,
elle a des textes magnifiques.
Complètement.
Et elle les chante d'une façon magnifique.
Oui, absolument. Et elle nous demande, dis, quand reviendras-tu ?
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu, dis. Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. À voir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire, et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne, ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous de mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai ma route, le monde m'y merveille, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape, ne se rattrape.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Voilà, c'était le choix. C'était votre choix, madame. De
oui, c'est
Barbara.
Mon choix, tout à fait.
Voilà, qui demandait à un monsieur quand est-ce qu'il revient. En lui disant si tu reviens pas, c'est pas grave, je n'ai pas du tout envie d'être une femme de marin. Donc, ça y est, vous décidez d'écrire. Enfin.
Il a fallu attendre 40 ans. Quand
40
même.
Ans, oui, mais après vous n'allez pas arrêter d'écrire.
Exactement. Une fois que j'étais lancée.
C'est ça.
Il y avait tellement de sujets, tellement de choses qui me hantaient depuis toujours, quoi.
Oui.
Et finalement, quand ça a commencé. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment.
Exactement.
C'est ça qui a été très important pour moi. J'ai pu publier grâce à toute une chaîne de femmes, justement, qui avaient lu mes livres et qui ont tout fait pour que je sois publiée. Et ça s'est fait uniquement par les femmes, hein, ce qui était incroyable. Et puis après, voilà, ça s'est enclenché de cette façon. Voilà. Je dis, j'ai eu de la chance. Voilà.
Alors, vous avez commencé par... Au commencement était la mer. C'était votre premier livre. Et nous sommes en 1996. Mais en fait, vous avez quand même eu des écrits en Algérie avant d'être publié. Vous avez quand même écrit
dans quelques articles de journaux, mais oui. C'était pas, ça n'avait rien de.
Ça n'avait rien à voir. C'était pas publié en tout cas.
C'était voilà. Pas des. On m'avait demandé pour quelques journaux.
C'est ça, pour les journaux.
De travailler, de développer certains thèmes sur l'éducation, sur la culture, mais ça n'avait rien à voir, oui.
Bien sûr. Votre sujet de prédilection, c'est la femme dans la société algérienne. C'est l'un de vos sujets en tout cas. Est-ce que je me trompe ?
Non, vous ne vous trompez pas, mais en fait, moi, je ne le vois pas comme ça parce que quand je commence un roman ou quand je pense à écrire un roman, je ne me dis pas je vais écrire un roman sur la femme algérienne, pas du tout. Il y a des personnages qui s'imposent à moi, il y a des histoires qui m'ont toujours hantée depuis toujours et qui remontent à la surface et ça revient. Et puis, c'est quelque chose qui me semble important à dire et intéressant. Et le but pour moi, c'est de raconter une histoire ou des histoires qui puissent rendre compte du quotidien, que ce soit le quotidien des femmes ou du quotidien des Algériens, de manière générale.
Oui. Alors, en 1998, vous écrivez une nouvelle. C'est la nouvelle Algérie.
C'est un recueil de nouvelles.
C'est un recueil chez Grasset, de nouvelles, oui. Aux éditions Grasset. Et donc, à peine sorti, vous avez le Grand Prix de la Nouvelle Société des Gens de Lettres.
Oui.
Vous avez un prix déjà
assez prestigieux, oui.
Oui, très prestigieux.
Oui.
Et ça, c'est extraordinaire. Vous avez dû...
C'est la reconnaissance par les pairs, vous savez. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui a été aussi à l'origine du fait que je me suis pas arrêtée après, voilà.
Bien
Parce
sûr.
Que je me suis dit, s'il y a cette reconnaissance, si on me donne un prix de cette nature-là, c'est-à-dire que je me sens un petit peu écrivain, entre guillemets. J'ai eu du mal à vivre ce que je vivais comme étant une carrière d'écrivain.
Ça oui, a été mais très pourtant, dur sans les thunes.
Oui, mais ça a été très dur. J'ai pas réussi à accepter ce mot d'écrivaine. Ouais. Il a fallu publier plusieurs livres avant de
considérer.
Ah, ouais. Ouais, ouais.
Mais vous êtes extrêmement prolifique. Vous avez écrit beaucoup de choses. Alors, on peut pas tout citer. Moi, je propose aux auditeurs d'aller sur Internet voir tous les livres que vous avez pu écrire. Mais j'ai envie d'en citer deux. L'ombre d'un homme qui marche au soleil. C'est sur votre compatriote.
Oui, Albert Camus, c'est un essai, en tout cas un très court essai, hein,
oui.
Sur Albert Camus, préfacé par la fille d'Albert Camus, Catherine Camus, qui m'a fait la gentillesse de me faire la préface sur son père. Albert Camus est un écrivain que j'ai découvert et pour qui je me suis découvert une passion, évidemment, parce que nous partageons le même amour pour ce pays, pour l'Algérie, pour la beauté de l'Algérie et puis pour plusieurs autres raisons. Et donc, j'ai écrit un essai sur Albert Camus.
Et le deuxième que je voudrais citer, c'est « Entendez-vous dans les montagnes ?» Et édité en 2008. Et là, vous évoquez votre père, arrêté pendant la guerre d'indépendance, qui a été donc et mort en 1957.
Oui.
Donc ça, j'imagine que ça devait être un livre important aussi.
Ça a été très dur, oui. Très, très dur. L'écriture de ce livre a été très dure. C'est en même temps... C'est pas une biographie de mon père du tout. J'ai imaginé la rencontre avec une rencontre, un jour, dans un train, avec un tortionnaire de mon père.
Oui, oh là.
Oui.
Oui.
Oui, c'est un livre qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui.
J'imagine. Alors, je vais citer assez rapidement 19 romans, des recueils de poésie, des nouvelles, des pièces de théâtre également. Vous avez reçu en 2005 le Grand Prix des libraires algériens pour l'ensemble de vos œuvres. Et je conseille vraiment aux auditeurs d'aller voir un petit peu ce que vous avez proposé, parce que c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, donc, Assia Benjeba, femme écrivain, c'est ça, écrivain. Et c'est le livre, que 20e livre, c'est ça?
À peu près.
Et c'est le livre que vous nous proposez aujourd'hui.
Oui, paru aux éditions Chèvrefeuille Étoilée.
Absolument.
Parce que j'y tiens, j'ai pas mal de textes aussi qui sont sortis aux éditions Chèvrefeuille, qui ont été publiés aux éditions Chèvrefeuille Étoilée.
Parce que vous avez cofondé.
Voilà, parce que je suis cofondatrice de cette maison d'édition qui me tient particulièrement à cœur. Et j'ai écrit en fait, c'est ce texte-là sur Assia Djebbar, c'est comment dire, le prétexte, si vous voulez, c'est une conférence que j'ai faite dans une médiathèque à Lille, et sur la, dans laquelle je parlais de d'Asia Djebbar et de la façon dont elle a pu franchir tous les seuils dont elle s'est affranchie en tant que femme et en tant qu'écrivaine. Et cette conférence a été, enfin, je l'ai reprise un petit peu pour ce livre,
pour faire le...
en accompagnant avec avec ce que je ressentais pour Asia Djebbar, et voilà.
Oui, parce que cette autrice est fait partie de votre panthéon, en fait.
C'est oui, une, tout à fait.
C'est
oui.
votre...
Oui, oui.
Alors, qui est cette femme? Qui est cette Asia Djebbar?
Asia Djebbar, c'est une grande écrivaine, très grande écrivaine, qui est reconnue bien plus, d'ailleurs, à l'étranger qu'en France, oui. Alors qu'elle publie en France. C'est une académicienne, elle a été première femme africaine à être admise à l'Académie française, c'est pas rien. Elle a eu le Grand Prix de la Paix, le Grand Prix allemand de la Paix, qui est l'équivalent du Nobel. Elle a eu un nombre incroyable de prix, un nombre incroyable d'études sur son œuvre aux États-Unis particulièrement, où elle y a enseigné d'ailleurs quelques années. Elle a écrit... Des romans, elle a écrit des essais, elle a fait du cinéma,
elle a fait deux documentaires qui ont eu des prix aussi.
Gros documentaires, ouais. Elle a écrit une pièce de théâtre, elle écrivait de la poésie. Enfin, c'est une femme qui a consacré sa vie et son temps, enfin dire toute sa vie à l'écriture, et elle a sa place, en tout cas pour moi, au panthéon des écrivains de langue française.
Absolument.
Et je ne dis pas algérien, je dis des écrivains de langue française.
De langue française.
Parce que vous savez, on aime bien les catégories.
Exactement, comme vous d'ailleurs. Voilà. Exactement. Parce que vous disiez que vous parlez le français, bien entendu, mais que vous parlez mal l'arabe.
Je ne connais pas bien la langue arabe classique.
Classique,
c'est ça. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir étudier lorsque j'étais enfant.
Alors, ce qui m'a frappé aussi, ça fait partie des aléas de la colonisation, c'est que quand vous étiez petite, la langue arabe était une langue étrangère.
La langue arabe classique, parce qu'à la maison, on parlait en arabe.
Bien entendu.
On parlait en arabe.
Mais vous ne l'appreniez pas à l'école.
Voilà. Et à l'école, elle était totalement bannie.
Complètement bannie. Voilà, oui, oui.
Totalement.
Oui. Enfin bon. Elle était aussi docteur honoris causa de nombreuses universités,
cette dame.
Alors, il y a quand même. Elle aussi a pris un pseudonyme.
Elle a pris un pseudonyme. Elle aussi avait un père instituteur.
Elle aussi avait un père instituteur.
Il y a quand même des points de rencontre, quoi. Oui,
oui, absolument.
Il y a des points de rencontre. Et bon, elle a consacré sa vie à écrire des romans, surtout en particulier des romans qui ont été très connus. J'ai pas le chiffre exact de ses publications, mais elle en a fait beaucoup. Et elle avait un rapport très très particulier à la langue française, qu'elle a expliqué de façon admirable dans plusieurs de ses communications de ses interventions, et qui devrait être, moi je pense, très sincèrement, être étudiée dans beaucoup d'universités.
Oui, je crois, aux États-Unis.
Aux États-Unis, pas trop en France. D'ailleurs, quand on fait le...
Ni en Algérie non plus, d'ailleurs.
Algérie, elle est connue maintenant. Maintenant, elle commence à se faire sa place. Parce qu'en Algérie, on parlait plutôt des écrivains de sa génération, hein, je parle. Hein.
Ouais.
Écrivains hommes comme Kateb Yassine, Mouloud Feraoun, Mohamed Dib. Mais on l'a cité très, très rarement. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué, depuis quelques années... Elle est de plus en plus citée, et je pense qu'elle est en train de prendre la place qui lui revient dans la littérature d'expression française.
Mais son nom a été cité aussi pour le prix Nobel de littérature. Aussi.
Elle était sur la liste des récipiendaires, des possibles récipiendaires.
Absolument. Prendre un pseudonyme, je me suis posé la question, est-ce que c'est une façon de ne pas oser écrire en tant que femme avec son propre nom de famille, ou est-ce que c'est une façon d'être plus libre, en fait, derrière ce nom qu'on a créé?
Alors, pour Asia Djebbar, c'était différent. Hein. Elle n'a jamais donné de raison, enfin de précision quant à son désir de choisir un autre nom, mais je pense qu'elle ne voulait pas impliquer sa famille. Elle fait partie de la génération qui a précédé la mienne, une femme qui écrit. Elle a eu la chance de pouvoir faire ses études en France. Elle a fait Cagnes et Hippocagne. Elle a vraiment été elle a vraiment été, comment dire, c'est une femme exceptionnelle pour son époque. Mais je pense qu'elle ne voulait pas impliquer, parce que son vrai nom, c'est Himalayan. Oui. Fatema Zahra Himalayan. Et écrire sous son nom, c'est une question que ne se posent pas les hommes, bien entendu. Sûr. Mais oui, une femme, c'était implication de toute la famille. Et je pense que le pseudonyme lui a donné une liberté.
Une forme de liberté, voilà, comme à vous d'ailleurs.
Qu'elle n'aurait pas eue. Exactement.
Et comme à vous. Tout à exactement. Fait. Alors évidemment, le temps passe tellement vite. Tu parles, il y a tellement de choses que j'aurais voulu vous dire, mes chers auditeurs. Mais bon, vous allez, de toute façon, après l'émission, vous allez vite vous précipiter sur Internet pour refaire connaissance. Parlons de votre maison des édition. Vous avez une maison d'édition, mais vous êtes aussi fondatrice d'une association de femmes algériennes, c'est
oui,
ça ?
Co-fondatrice,
Parole et écriture.
Co-fondatrice que, oui, d'une association. Au début des années 2000, j'avais décidé de partager les possibilités que j'avais d'avoir des livres, des lecteurs, des lectures, etc. avec les personnes de ma ville. Donc, on a fondé une association qui s'appelle Parole et écriture. Au début, on faisait juste des rencontres, on faisait des lectures, on faisait des ateliers d'écriture, etc. Uniquement de femmes.
Hein. Bien sûr, de femmes, bien sûr.
Et ensuite, on a eu les dents un peu plus longues et on a réussi à avoir des subventions, en particulier celle de la Commission européenne, et on a créé une bibliothèque. Bravo. À l'intérieur de la ville, une bibliothèque qui a fonctionné une dizaine d'années et oui, qui a été fermée faute de,
oui, de combattants financiers.
Voilà, exactement, faute de revenus et qui a vraiment été un endroit extraordinaire pour la ville de Sidi Bel Abbès, parce qu'on recevait des auteurs pour rencontrer
oui,
des...
Intéressant.
Ah oui, non, mais ça a été un moment... voilà.
Et la maison d'édition, en fait, vous vous occupez d'une collection aussi dans la maison d'édition, c'est ça ?
Oui, je faisais partie du comité de lecture, oui, bien
c'est ça,
entendu.
Comité de lecture.
Cette maison d'édition a été fondée à Montpellier aussi, par exemple, dans les années 2000. Maintenant, ça y est, c'est une vieille maison d'édition. Nous étions des femmes qui avions décidé de donner la parole à des femmes, uniquement à des femmes.
Une très bonne idée.
Voilà. Et notre maison d'édition, Chèvrefeuille étoilée, a donné la parole à des femmes. Et ça a été des romans, toutes sortes de publications, avec des exigences, bien sûr, de qualité et au niveau des thèmes choisis.
Madame, vous êtes aujourd'hui également l'une des figures de l'écriture féministe. Vous insistez les femmes, par le biais de l'écriture, à revendiquer leurs droits, à s'assumer dans une société patriarcale, dont vous continuez le combat, quelque part. Vous continuez histoire de droit et d'envie d'être ce que nous sommes vraiment.
Oui, souvent, vous savez, dans le mot féministe, il y a pour beaucoup une connotation assez négative, péjorative, c'est-à-dire uniquement de revendication.
Pas
et tout.
Ici, en tout cas, je peux vous dire.
Oui, je sais, non, pas, justement pas. Ça, c'est un petit peu ce que j'allais vous...
Oui.
C'est à quoi je voulais en venir. Mais moi, le féminisme, je le conçois comme le besoin de donner aux femmes, non seulement leurs droits, mais le droit de s'épanouir et d'être
exactement
ce qu'elles sont complètement. Et dans ce sens-là, je suis profondément féministe.
Moi aussi, profondément. De toute façon, être féministe, c'est quoi pour une femme ? C'est simplement prendre sa vie en main. C'est pas compliqué,
voilà.
C'est très simple.
Oui.
Vous êtes aussi l'une des porte-paroles donc des femmes algériennes. Elles ont trouvé par votre plume les mots qui décrivent leur situation et leur oppression. Et c'est important, effectivement, de mettre des mots sur les sentiments. Parce que
absolument,
certaines
oui
femmes n'ont pas la possibilité.
Je ne me revendique pas en tant que porte-parole.
Non, mais moi, je revendique pour vous. Voilà, c'est comme ça. Parce
oui,
que...
non. Mais je porte la parole
oui
de certaines femmes qui sont, la plupart pour beaucoup, qui sont sans voix, quoi qui
oui
n'ont pas les moyens que j'ai,
bien
moi,
sûr,
de pouvoir dire les choses.
Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. J'ai passé un moment fantastique.
Merci
et
à
en vous
Lydie,
lisant,
merci
et
beaucoup.
Encore là aujourd'hui. Et vraiment, vraiment, je vous conseille... en tout cas, moi, évidemment, j'ai lu le livre dont on a parlé aujourd'hui, mais je vais vite lire les autres livres que je ne connais
très
pas.
Bien.
Donc, je remercie Enrico et son partenaire, dont j'oublie le prénom, qui va me... Voilà. Je remercie bien entendu les auditeurs. Et surtout, n'oubliez pas, à chaque fois qu'une femme se lève, c'est pour notre humanité. Merci infiniment. Tant qu'il y aura des femmes, avec Lydia Ketty, votre rendez-vous du jeudi sur Aligre FM 93.1.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.